Vaillante, mère de famille, sœur de misère, la veuve Lucie Beau fait figure d'héroïne, à la manière d'une femme, toujours un peu porte-drapeau. Avec son auréole de courage et de solitude face aux critiques sévères qu'elle a affrontées et dont on perçoit le murmure. Comment une mère de famille pouvait-elle agir ainsi, laisser ses enfants au hasard de gardes aléatoires, devenir une femme publique, rompre l'apparente harmonie de la ville, elle qui avait été l'épouse respectée du garde champêtre, ouvrière depuis si longtemps chez Duplan. Pour beaucoup, c'était un scandale. En 2012, l'historienne Michel Perrault publiait « Mélancolie ouvrière », une enquête historique sur Lucie Beau, née en 1870 et morte en 1913, veuve à 32 ans, ouvrière du Dauphiné, syndicaliste et gréviste. Aujourd'hui, Gérard Mordilla signe une adaptation cinématographique de cet essai sur une oubliée de l'histoire. Ils sont tous les deux nos invités en première partie de la Grande Table. En seconde partie, entretien avec la romancière Sophie Divry, qui publie « Trois fois la fin du monde » aux éditions Notabilia. Et nous sommes avec Michel Perrault, vous êtes historienne, auteur de Mélancolie ouvrière, publié en 2012 chez Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous en duplex de Bretagne, depuis les locaux de France Bleu Rennes, Gérard Mordilla, vous êtes écrivain et cinéaste. Mélancolie ouvrière, votre adaptation de l'essai de Michel Perrault sera diffusée demain soir sur Arte. Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose qu'on écoute la voix de Virginie Ledoyen qui incarne Lucie Beau dans votre adaptation.
Je suis entrée comme apprentie au péage de Visil, au commencement de 1883. On y travaillait 12 heures, quelquefois 13 ou 14 heures par jour. On avait le droit à un arrêt d'une demi-heure le midi pour manger. Quand j'étais apprentie, le métier battait 80 coups à la minute et on ne s'occupait que d'une machine. Quand je suis devenue ouvrière, le métier battait 120 coups à la minute et il fallait s'occuper de deux ou trois machines à la fois.
Gérard Mordilla, on écoute un extrait de votre adaptation de l'essai de Michel Perrault. Quand et comment vous avez rencontré cet essai, Mélancolie ouvrière ?
Je l'ai rencontré d'abord en lisant le livre de Michel Perrault, au fond, pratiquement dès qu'il était paru. Je suis un lecteur assidu des œuvres de Michel Perrault et celui-là me parlait particulièrement. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé en faire un film, et c'est que Jean-Pierre Guérin, le producteur du film, qui un jour m'a appelé pour me dire « Mais est-ce que tu connais ce texte ?» Je dis « Bien sûr ». Il m'a dit « Tu ne crois pas qu'on devrait en faire un film ?» Et ça a été, si j'ose dire, comme une illumination. Ça m'a paru comme une évidence. Et donc, la rencontre s'est faite immédiatement.
C'est pas si fréquent l'idée d'adapter quelque chose qui, enfin une écriture qui relève en tout cas de l'essai. À quel moment vous vous êtes dit qu'il y avait une matière cinématographique ?
Pour moi, c'était pas quelque chose d'étranger parce que j'avais été avec Nicolas Philibert, l'assistant de René Alliot sur Moi, Pierre Rivière, et au fond, on était dans le même type de relation parce qu'il y avait tout le travail d'enquête de Michel Perrault, et puis il y avait aussi, et j'ai envie de dire surtout, le texte de Lucie Beau elle-même, le mémoire qu'elle a laissé à une revue socialiste en 1908, où, en quelques feuillets, elle racontait de façon extrêmement factuelle ce qu'avait été sa vie de militante, sa vie à l'intérieur des grèves, et que ce document-là, ajouté aux recherches de Michel Perrault, me donnait, si je puis dire, finalement, une évidence de scénario sur cette vie.
Michel Perrault, dans votre essai Mélancolie ouvrière, oui, Gérard Mordilla vient de le rappeler, vous partez de ce texte-là, un récit de Lucie Beau, un récit de vie, en 1908. Est-ce que vous pourrez nous en dire quelques mots ?
Oui, ce que Virginie Ledoyen dit là, c'est exactement le texte de Lucie Beau, publié donc en 1908. Et c'est un peu par ce texte que moi j'ai rencontré Lucie Beau, il y a très longtemps, hein, plus de 30 ans. Je l'avais rencontré grâce à Madeleine Guilbert, une sociologue, qui mentionnait ce texte, mais sans plus. J'avais été lire le texte, j'avais été ébloui, c'est peut-être un grand mot, mais étonné en tout cas, qu'une ouvrière écrive et surtout commence en disant « je ». Hein. Après, le « je » devient un « nous », parce que c'est le « nous » des ouvrières. Mais elle dit « je » quand même, c'est extrêmement rare. Alors donc, je l'ai naturellement oublié, j'ai plus pensé à elle. Et quand un jour, Caroline Fourest et Fianetta Wenner, deux jeunes femmes qui étaient éditrices, elles voulaient lancer une collection Nos héroïnes et elles voulaient une inconnue. Elles m'ont demandé, naturellement, bien sûr, on a parlé, Et dans la conversation, je leur ai parlé de Lucie Beau. Elle m'a dit, mais voilà, voilà, c'est tout à fait ce qu'on veut, une inconnue qui a fait des choses, etc. Alors voilà, alors je me suis mise à la recherche, naturellement d'archives, tout ce que vous voudrez, et recherche locale. Et ici, je dois dire tout ce que le livre doit à Gérard Mordillat, qui est un ancien instituteur passionné d'histoire, de Visil, et qui, lui, a eu l'immense mérite de regarder l'état civil, d'essayer de rechercher les descendants, etc., etc. Alors nous nous sommes joints, en quelque sorte, également avec André E. Gauthier, qui avait fait une thèse sur les ouvrières tisseuses de soie, et qui d'ailleurs avait été la première à écrire, et ça m'avait aussi beaucoup frappé, que Lucie Beau avait fait une tentative de suicide après la grève, l'échec de la grève de Voiron, non plus Visil, mais Voiron. Donc, tout ça, c'était des éléments romanesques, passionnants, et partir à la recherche de Lucie Beau, aussi bien dans les documents d'archives de presse que sur place, dans les usines désaffectées, dans les cimetières, dans les maisons abandonnées, etc., etc., avec des gens qui sont devenus pour moi des amis, Gérard Mingat, bien sûr, et puis René Alliot, etc., on a fait beaucoup de choses. Voilà. Et c'est comme ça que finalement le livre a été écrit, et qui, grâce à Gérard Mordillat, que je salue, chaleureusement, il est devenu un film.
Gérard Mordillat, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend donc le bruit des machines. Lucie Beau était donc ouvrière dans les industries de la soie. Est-ce que c'était aussi une ambition qui présidait dans le désir de faire ce film, celui de filmer le travail et de filmer l'usine ?
C'était indispensable, et même notre chance a été de trouver dans un village à la frontière de la Loire et de l'Ardèche un atelier où on avait miraculeusement, si j'ose dire, conservé une quarantaine de métiers à tisser de 1900 que nous avons pu remettre en marche. Bien entendu, c'était la condition pour que le film se fasse, parce que il fallait montrer ce que ces femmes faisaient, ces femmes et ces enfants, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les filatures, et ce bruit en même temps, on ne peut pas vraiment en rendre compte, parce que même les instruments les plus modernes de prise de son n'arrivent pas à saisir le volume sonore de 40 machines qui fonctionnent ensemble. C'est un bruit infernal.
Dans l'essai de Michel Perrault, il y a l'ambiguïté aussi de cette notion d'héroïne autour de la figure de Lucie Beau, à savoir, est-ce que c'est une héroïne ? On parle souvent des grands hommes, et Michel Perrault, dans l'essai, vous dites que le concept de grande femme est étrange, en tout cas, puisqu'elles ont toujours été petites dans l'histoire. Est-ce que ça a été quelque chose pour vous, Michel Perrault, oui ?
Oui, la petite femme, son patron, pendant la grève, quand ils ont une entrevue, grâce d'ailleurs au maire de Visil, lui dit, mais vous n'êtes qu'une petite femme. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans le film tout à fait. Et elle lui répond, mais vous n'êtes qu'un capitaliste. Et l'échange est assez extraordinaire quand même. Petite femme, oui, mais en effet, devenue devant les yeux étonnée, choquée de patron, bien sûr, mais même de l'assistance, même de l'opinion qui hésite devant ce type de femme, oui, elle devient une héroïne. Elle est quelqu'un qui transgresse, en quelque sorte.
Et vous, Gérard Mordillat, vous l'avez pensé comme héroïne à l'écriture du film et dans la réalisation ?
Immédiatement, c'est-à-dire que ce qui me frappe chez Lucie Beau et ce que fait incroyablement bien passer Virginie Le Doyen, c'est comment cette femme fait ce chemin. Elle part d'une indignation simplement à la condition qui leur est faite, une indignation, je dirais, comme ça, émotive. Et puis, petit à petit, elle va comprendre que ce n'est pas simplement son sort qui est en question, mais le sort de toutes. Et à partir de là, quand elle va devenir ce personnage qui va prendre la parole, qui va entraîner les autres, eh bien oui, elle devient une héroïne parce que elle sacrifie tout pour cela, pour les autres. Elle sacrifie ses propres intérêts, elle sacrifie sa famille, elle sacrifie ses amours, elle sacrifie tout. Eh bien oui, elle devient une héroïne, et je crois que vraiment le mérite, enfin la beauté de l'interprétation de Virginie Le Doyen, pour moi, passe par là. C'est-à-dire qu'elle fait saisir au spectateur comment quelqu'un qui au départ est simplement une ouvrière de la soie peut devenir une femme exceptionnelle, une grande femme.
Votre film s'ouvre sur une image assez forte, c'est la mère de Lucie Beau, et on voit ses cris, enfin on l'entend crier, on la voit, au moment de l'accouchement. Est-ce que c'était aussi une manière pour vous de démarrer ce film par cette image-là, de montrer quelque chose de l'histoire des femmes, et en tout cas de la souffrance des femmes à cette époque-là?
C'était commencer le film par une naissance, celle de Lucie Beau, et par un cri qui serait le cri de sa révolte. Bien entendu, j'ai toujours en tête la citation de Rimbaud qui parlait de l'infinie servitude des femmes. Et je crois que dans tous les romans que j'ai écrits, s'il n'y a pas de héros au sens masculin, il y a toujours des héroïnes. Et Lucie Beau, pour moi, appartient à cette famille. Et commencer le film ainsi, eh bien, c'était au fond donner le là de toute l'histoire. Et cela, bah, c'était un cri de douleur qui est aussi un cri de révolte, mais aussi une naissance. Parce qu'avec Lucie Beau, naît quelque chose qui continue encore aujourd'hui, qui est cette lutte des femmes pour simplement exister d'abord en tant que femme, et puis au-delà de ça, en tant qu'ouvrière, en tant qu'employée, être reconnue pour ce qu'elles sont, et non pas comme une sorte de sous-humanité vouée simplement à la servitude et aux tâches dégradantes.
Michel Perrault, comment vous, quel effet ça vous a fait de voir Lucie Beau incarnée à l'écran par une comédienne, par Virginie Ledoyen?
D'abord, une émotion intense. Je dois vous dire que la première fois que j'ai vu le film, au fond, j'en menais pas large. Voir ça sur l'écran, c'est quand même quelque chose. Et puis, Virginie Ledoyen, au fond, elle a réalisé mon rêve. Parce que, en effet, je la voyais, Lucie, que je ne connaissais pas, bien sûr, jeune. Elle était jeune, hein, une jeune femme. Et puis, au cours de la recherche longue et qu'on ne peut pas raconter ici, Gérard Manga m'avait montré une photo qu'un petit-fils lui avait donnée en disant « c'est peut-être elle, ma grand-mère, Lucie Beau ». Et elle faisait la femme beaucoup plus âgée. Sans doute la photo était prise vers la quarantaine, mais une femme de 40 ans, à cette époque, faisait davantage. Si bien que j'avais eu une petite et bête, je dois dire, déception. Si bien que quand j'ai retrouvé Virginie Ledoyen, je me suis dit, mon rêve est réalisé, c'est elle.
Gérard Mordillat, dans votre film suit la chronologie de la vie de Lucie Beau, enfin de manière chronologique depuis sa naissance, jusqu'à sa tentative de suicide en 1906. Est-ce que ce choix de la chronologie était une évidence pour vous?
Je voulais être extrêmement fidèle aux mémoires de Lucie Beau, c'est-à-dire ne pas m'écarter de l'histoire de ce point de vue-là, rester sur le chemin qu'elle avait elle-même tracé. Donc j'ai gardé cet aspect chronologique. La chose qui m'est venue, c'est que lorsqu'on lit ce qu'a écrit Lucie Beau, c'est écrit, comme je le disais tout à l'heure, de façon très factuelle, pas sèche, mais ça s'en tient au fait. Et tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, du doute, de la colère, il faut le lire entre les lignes. Et j'ai pensé que pour faire exister disons ce niveau du sensible, je devais passer par autre chose et j'ai choisi de passer par le chant, par ce qui est pour moi la vraie culture populaire, la grande et profonde culture populaire qui est le chant, c'est-à-dire aussi bien des chants comme le temps des cerises, mais aussi les cantiques à l'église, mais aussi le Va pensiero de Verdi, etc. Ce que l'on chante dans les familles qui n'ont pas de culture livresque, et Lucie Beau, même si elle avait le certificat d'études, avait une culture livresque, j'imagine, assez limitée. En revanche, elle avait entendu chanter à l'église, elle avait entendu chanter au village, elle avait entendu chanter dans les bals. Et moi, ça me plaisait beaucoup que le chant porte l'histoire à part égale du dialogue. Et donc, à la fois, j'ai été fondamentalement fidèle à ce que Lucie Beau a écrit, et en même temps, j'ai fait ce pas de patineur dans, au fond, l'émotion et le secret de son cœur.
Michel Perrault, comment vous réagissez à cette question du chant, à l'époque, la place de la chanson ?
Et je voudrais dire que j'aime beaucoup tout ce qui est la bande-son du film. Je la trouve remarquable, certes par les chansons, mais aussi par les bruits de l'usine, c'est formidable, et puis les bruits des déplacements de foule, et même presque les bruits de la nature. Il y a là un travail remarquable, et je crois qu'il faut y être très attentif, c'est une espèce de film sonore que j'aime énormément. j'aime beaucoup. Mais dans sa totalité, les chansons, mais pas seulement elles, l'ensemble des bruits qui sont là, je pense que c'est très très important.
Est-ce que c'est un travail, donc soit votre essai Mélancolie ouvrière, soit l'adaptation que vous en livrez Gérard Mordia, qui passe avant tout justement par les détails ?
Alors, par les détails, certes, et on en a beaucoup, au fond, des détails, et on peut en retrouver beaucoup, mais je voudrais dire quelque chose à propos de l'émotion. Gérard Mordillat vient d'en parler. Je pense que le rôle du cinéaste, en effet, c'est d'imaginer au-delà même de la chronique peut-être un peu sèche que donne l'historien. Moi aussi, j'étais sensible aux émotions, j'ai tout le temps cherché à percevoir ce qu'elle pouvait penser, vivre, etc. Mais retenue par une espèce de réserve historienne, ne n'osant pas aller trop loin. Et Gérard Mordillat va beaucoup plus loin. Et c'est son rôle. Et c'est légitime, et c'est souhaitable, et c'est ce qui donne du souffle au film. Et je lui en ai beaucoup de gratitude.
Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de votre adaptation, Gérard Mordillat, de Mélancolie ouvrière.
Laissez-nous passer.
Reculez! Nous avons des ordres. Seules celles qui sont sur la liste de l'abbé Salamito peuvent entrer.
Nous sommes toutes sur la liste de l'abbé.
Montrez-moi vos bulletins d'embauche.
Tu veux pas plutôt voir mon cul ?
Fumier !
Première sommation, reculez !
Vous n'oseriez pas.
Premier rang, un genou à terre. Anjou. C'est fini vos conneries. L'ordre doit être respecté et il le sera.
Oseriez-vous parler comme ça à votre mère ? À votre sœur ? À votre fiancée ? À votre femme ? N'avez-vous donc rien dans le cœur ? Ce n'est pas contre nous que vous devez pointer vos fusils, mais contre ceux qui vous envoient pour nous tuer.
Taisez-vous. Reculez, deuxième sommation !
Tu sais pour qui tu travailles ? Tu sais qui paye tes balles ?
Ta gueule, j'ai dit !
De quoi avez-vous peur ? De qui ? De vous ? De vous regarder enfin en face dans une glace et de dire « à moi la gloire, j'ai tiré sur une femme désarmée à qui on vole son travail ?» Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ?
Ta gueule, un mot de plus et je t'allume !
Tu n'es qu'un enfant.
Reculez ! Recule !
Debout les damnés de la terre, debout.
On entend l'international, une deuxième scène de votre adaptation Gérard Mordillat de Mélancolie ouvrière, le livre de Michel Perrault. On entend l'affrontement ici entre Lucie Beau et les forces de l'ordre au cours de la grève de l'usine Duplan. Une des particularités de la carrière de Lucie Beau, c'est qu'elle a été donc syndicaliste et syndicaliste femme et qu'elle a dû de fait se retrouver dans un univers, l'univers du syndicalisme, qui était particulièrement masculin. Et c'est quelque chose qui ressort de manière très forte dans votre adaptation, Gérard Mordillat. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ?
Oui, je l'ai pensé comme ça. Et il faut dire qu'une rencontre déterminante de Lucie Beau, c'est avec Charles Auda, qui était un syndicaliste de la CGT, à l'époque où la CGT était encore un syndicat anarchiste. Et cette rencontre avec Auda va finalement l'amener vers le syndicalisme. Au départ, comme je l'ai dit, c'était plutôt une révolte, une émotion, une indignation. Auda va l'amener vers le syndicalisme. Et c'est vrai que là, soudain, et Philippe Torreton donne corps à Auda de façon merveilleuse, à mes yeux, extraordinaire, eh bien, elle va devenir cette femme qui, au fond, se structure ses compagnes et mène le combat dans d'autres termes. Mais c'est une femme. Et dans le film, on voit le congrès de 1904 de la CGT, où se sont affrontées les deux grandes tendances, la tendance anarchiste et la tendance qui voulait s'allier avec le Parti socialiste. Il n'y avait pas de Parti communiste à l'époque. Et puis, il y a 70 délégués, une seule femme, Lucie Beau, qu'on fait monter à la tribune, qu'on fait applaudir, et puis à qui on ne donne jamais la parole. Alors, évidemment, là, d'une certaine façon, tout est dit sur sa position de femme et de syndicaliste. Elle est à la fois servie par les applaudissements et en même temps dénigrée par la place qu'on lui accorde au bout de la table, assise sur une chaise. Et c'est vrai que cette histoire est importante parce que je crois qu'on n'en est toujours pas au bout et qu'il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le monde syndical, mais dans la société tout entière, pour que les femmes ne soient pas celles qu'on assoit au bout d'une table et qu'on fait applaudir simplement parce qu'elles sont jolies.
Michel Perrault, une des particularités aussi de la situation politique des femmes à l'époque, c'est qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Et ça, on vous le dit dans votre livre et on l'entend dans le film de Gérard Mordillat, elles ne représentent pas un potentiel d'électrices à l'époque.
Oui, absolument. Et Lucie Bou en était consciente. À la mairie, là, quand il y a le fameux dialogue, elle dit « Et puis on ne vous intéresse pas, les femmes ne vous intéressent pas puisqu'elles ne votent pas. » Voilà, elle le dit. Comme ça, à peu près. C'est ce qu'on rapporte évidemment un journaliste de l'époque. Donc oui, c'est tout à fait intéressant. Et le congrès de Reims auquel Gérard Mordillat vient de faire une place, ça c'est formidable. Parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, on a le compte-rendu imprimé de ce congrès et tout ce que nous racontons là, on l'a vu écrit dans le texte. Les ouvriers sont très gentils avec Lucie Bou. Il lui offre des fleurs, il la cajole même d'une certaine manière, mais il lui donne pas ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire la parole. Et là, il y a toute la relation compliquée, on comprend bien comment ça pouvait être à l'époque, bien sûr, c'était comme ça, mais comme l'a dit Gérard Mordillat, c'est pas ce que les femmes voulaient. Elles commençaient à ne plus vouloir, disons.
Dans le texte de Lucie Bou et dans son récit, elle parle de son admiration pour la personne dont vous parliez, Gérard Mordillat, qui est Charles Oda. Et vous avez fait le choix de créer une histoire d'amour entre eux. Comment c'est arrivé cette idée-là ?
Je me suis dit que Lucie Bou le méritait. C'est-à-dire cette femme qui est tellement abandonnée par tous méritait de vivre quelque chose qui ne soit qu'à elle, qui soit quelque chose qui finalement la console de cette violence qui est sa vie quotidienne. Et je crois que l'admiration qu'elle exprime pour Charles Oda dans son mémoire, au fond, cache cela. Il y a eu une histoire entre eux. En tout cas, je veux le croire, et je crois que Michel Perrault veut le croire aussi, et je suis certain que tous les spectateurs du film le veulent. Et c'est vrai que le couple Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, donne aussi cette image d'un amour à la fois presque impossible, presque interdit, et en même temps, un moment de bonheur exceptionnel pour cette femme qui a vécu tant de malheurs.
Michel Perrault, comment vous avez reçu cette histoire d'amour en voyant le film de Gérard Mordillat ?
Eh bien, j'ai pensé que c'était certes pas écrit et pas connu, mais plausible, tout à fait plausible. En effet, dans le court mémoire d'un stage dont on parle depuis le début, elle parle au moins deux ou trois fois d'Oda. Elle écrit son nom en quelque sorte. Et elle a une profonde admiration. D'abord parce qu'il est italien, ça ne suffirait certainement pas, mais on n'a pas parlé de ça encore et on peut en dire qu'un mot. Il y avait beaucoup d'ouvrières italiennes dans l'usine et ces ouvrières italiennes étaient particulièrement abandonnées, y compris par leurs collègues françaises. Et Oda leur parlait. Il leur a expliqué, à la demande de Lucie Bou, qu'elles avaient des droits et qu'il fallait qu'elles réagissent elles aussi. Alors, ça campe le personnage et on comprend que Lucie Bou a eu pour lui probablement plus que de l'admiration, peut-être une profonde affection et pourquoi pas de l'amour.
Le mot qui apparaît dans le film et dans le livre, c'est ce mot-là, mélancolie. Et Michel Perrault, vous vous interrogez dans le livre sur la question de la fin du mouvement social. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Lucie Bou, notamment pour qu'elle fasse cette tentative de suicide en 1906. Comment vous avez inventé justement ce sentiment, comment il a fallu jouer ce sentiment de la mélancolie, Gérard Mordillat, dans le travail avec Virginie Ledoyen ? Est-ce que c'est quelque chose que vous lui avez des indications d'acteur ?
Pas dans ces termes-là, non, parce que je pense que ça ne servirait à rien de dire à une actrice il y a de la mélancolie. Non, je crois que dans le travail que nous avons fait avec Virginie, tout l'enjeu était simplement simplement. C'était pas simple du tout, non. C'était de, je dirais, de gravir les marches, de faire participer le spectateur à ce qu'est ce cheminement intellectuel et affectif de Lucie Beau. Alors, bien sûr, il y a de la mélancolie au sens presque nervalien. Il y a une sorte de désespoir, et ce désespoir qui l'a fait en même temps sombrer et agir. Et je crois que c'était ça l'idée. C'était de se dire que cette femme vit ce qu'elle vit, elle serre les dents et n'en montre rien, et ça la détruit d'une certaine façon, et en même temps, c'est sur ce noir d'elle-même qu'elle construit sa vie, qu'elle construit ses luttes, et qu'elle va aller jusqu'au bout des démarches qui sont les siennes. Et encore une fois, j'insiste sur ça, non pas pour son intérêt personnel, mais pour les autres. Parce que Michel Perrault vient de citer les Italiennes. Les Italiennes étaient esclavagisées, étaient prises par les curés dans le Piémont, on les amenait, elles vivaient dans des conditions épouvantables, et elles étaient détestées par les Françaises, parce que bien sûr, elles travaillaient avec des cadences bien supérieures et payées beaucoup moins, etc. Enfin bon, c'est une vieille technique patronale. La grande intelligence, la grande force de Lucie Beau, ça va être de dire, eh bien, la condition de ces femmes et la nôtre n'est qu'une seule et même condition. Si nous faisons la grève, elles doivent faire la grève, et nous devons faire la grève aussi bien pour elles que pour nous. Et elle va réussir ça. Et ça, c'est à mes yeux un des grands moments du film.
Michel Perrault, dans votre essai Mélancolie ouvrière, il y a l'idée que Lucie Beau, c'est une femme qui est sortie du rang et qui, d'une certaine manière, a dû en payer les conséquences. Est-ce que ce serait ça l'origine de la mélancolie ouvrière, justement, dont on parle ?
Je pense qu'il y a plusieurs sources de mélancolie. Il y en a une qui est liée à l'échec des grèves, à l'échec de ce mouvement ouvrier de 1906 notamment, où il y avait eu un très très grand espoir dans la classe ouvrière, un espoir fou d'ailleurs, hein, par la grève générale, on allait faire peut-être la révolution. Il ne faut pas oublier que c'est ce que croyaient beaucoup des ouvriers de la CGT, notamment la CGT anarcho-syndicaliste, hein, donc, il faut le rappeler. Il y a cette source-là, l'échec. L'échec après la grève, c'est dur, hein. C'est dur d'échouer dans une grève dans laquelle on s'est tellement engagé. Et puis alors, pour Lucie Beau, il y a sa condition de femme, hein. Elle est abandonnée par sa famille, elle est critiquée par sa famille. Et d'ailleurs, dans le document qu'elle a laissé et que le commissaire de police de Voiron cite dans la presse, elle dit qu'elle a fait cette tentative de suicide pour chagrin familiaux. Chagrin familiaux. Autrement dit, à nouveau dans sa condition de femme, écartelée entre ses deux filles, il y en a une qui a 15 ans et l'autre qui en a 8, quelque chose comme ça, et visiblement les filles ne comprennent pas du tout ça, et surtout la belle famille, sa famille à elle, ses parents. Ses parents étaient probablement beaucoup plus, j'allais dire, dans l'église davantage, hein. Il y avait une rupture à ce niveau-là. Donc, elle a opéré toutes sortes de ruptures, et ces ruptures la laissent seule. Et ça, c'est quand même terrible, terrible. Donc, la mélancolie, elle est un petit peu à plusieurs niveaux, à plusieurs sources.
Gérard Mordillat, il y a une chose qui m'a frappé dans votre adaptation, c'est la place de l'église, notamment le personnage du curé qui est joué par Jean-Damien Barbin. Est-ce que c'était important pour vous de montrer cette collusion entre l'église et l'État, alors que justement on est aux alentours de la loi de 1904 sur la laïcité ?
C'était important et c'était tout simplement historique. C'était le témoignage historique. Alors, il y avait le témoignage à propos de Lucie Beau, mais on peut dire exactement la même chose des faïenceries près de Limoges. C'est-à-dire que les curés servaient de sergents recruteurs pour les grands industriels. Alors, on allait chercher de la main-d'œuvre immigrée. Et c'est en cela aussi que le film nous parle au présent, parce que on retrouve toutes les questions qui sont les questions contemporaines. La question de l'immigration, là, ici, les Italiens. Souvent des Italiennes d'ailleurs, on voit le harcèlement sexuel, on voit la lutte pour la semaine de 8 heures alors qu'elle travaille 13 ou 14 heures, et pour les salaires. Donc c'était important de montrer le rôle de l'Église dans finalement cet emprisonnement des ouvrières et des ouvriers. C'est eux qui conditionnaient l'ensemble des choses au nom du respect, de la religion, etc. Mais c'était des sergents recruteurs. Et Jean-Damien Barbin, moi je le trouve trouve absolument incroyable comment il a réussi à faire vivre et exister un personnage qui peut paraître extravagant, mais qui n'est pas extravagant si on pense que c'est un sergent recruteur. Les sergents recruteurs, comme les camelots devant les grands magasins, sont des gens qui sont faits pour attirer la foule et pour vendre du vent, de l'illusion, pour vendre ce que l'on veut. Et moi, je crois que ce rôle de l'Église, eh bien, il est un rôle fondamental à ce moment de l'histoire. Et on voit bien, au moment où on pense qu'il peut y avoir la révolution, la collusion évidemment immédiate entre l'Église, l'armée et le pouvoir politique. On est face à cela. Et c'est pour ça que Oda, d'ailleurs, le dit, qu'on doit lutter contre ces trois éléments. Sans ça, on ne s'en sortira pas.
Michel Perrault, sur cette place de l'Église, à l'époque de Lucie Beau, dans le conflit social?
Oui, peut-être ajouter quand même que l'Église elle-même était divisée et que tout le clergé ne ressemble pas à cet abbé. Qu'il y avait aussi un christianisme social qui se posait la question de la classe ouvrière et qui divisait profondément l'Église elle-même. Mais le personnage du curé, là, est en effet inspiré d'un personnage réel qui avait pour mission, en effet, il avait même une organisation pour aller recruter les ouvrières italiennes en Piémont. Il faut ajouter que si les familles italiennes n'avaient pas eu des garanties du point de vue de l'Église, jamais elles n'auraient envoyé leurs filles en France. Le prêtre leur disait... les religieuses s'occupent de l'internat, vos filles seront en sécurité, etc., etc. Et pour elles, pour les familles italiennes, c'était une espèce de garantie, si vous voulez. Et c'est, les contrats qui étaient conclus à ce moment-là étaient généralement des contrats 2 à 3 ans, hein. Les jeunes filles partaient, elles avaient quoi, 15 ans, quelque chose comme ça. Elles partaient jusqu'à l'âge de 18 ans sans rentrer chez elles. Et voilà, donc c'est vraiment un système incroyable quand nous le regardons d'aujourd'hui. Alors, une dernière chose, dire en effet que la question religieuse bat son plein à ce moment-là et qu'elle bat son plein aussi en Isère. L'Isère était très divisée, il y avait beaucoup de divisions entre les catholique de stricte obédience, en quelque sorte. Hein. Et la famille de Lucie Martin, elle s'appelait Lucie Martin, était probablement une famille très croyante et qui réprouvait l'évolution de Lucie. Lucie avait épousé Beau, et Beau, nous le savons, était par ailleurs probablement radical et libre penseur. Et il y avait eu une espèce de première rupture dans la vie de Lucie, et ça montre les conflits de l'époque. Voilà.
Merci à tous les deux. Michel Perrault, Mélancolie ouvrière, votre essai sur Lucie Beau, il est publié aux éditions Grasset. Il existe aussi en poche aux éditions Point Seuil. Et je signale que vous publiez ces jours-ci un livre sur Georges Sand et sa maison, Georges Sand à Nohant, aux éditions du Seuil. Merci à vous Gérard Mordilla. Mélancolie ouvrière, c'est diffusé sur Arte demain soir à 20h55. Merci à France Bleu Armorique qui a assuré la connexion technique. Vous écoutez France Culture, il est 13h20, on écoute Tinkle Twinkle du groupe En Attendant Anna, extrait de l'album Lost and Found. Sorti cette année sous les labels Montagne Sacrée et Buddy Records, ils seront en concert le 5 septembre à Paris au Petit Bain.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Ils ont tué mon frère. Ils l'ont tué devant la bijouterie parce qu'il portait une arme et qu'il leur tirait dessus. Ils n'ont pas fait les sommations réglementaires. J'ai répété ça pendant toute la garde à vue. Vous n'avez pas fait les trois sommations, salopard, crevard, assassin. Les flics ne me touchent pas. À quoi bon ? Ils savent que je vais en prendre pour 20 ans pour complicité. Moi, j'attendrai dans la voiture volée. Quand j'ai vu la bleusaille, il était trop tard pour démarrer. Ils se sont jetés sur moi, m'ont plaqué à terre. C'est de là que j'ai vu la scène. Rien de pire ne pouvait m'arriver. Tonio tué sous mes yeux. Mais pourquoi ce con a-t-il fait feu ? Bonjour Sophie Divry.
Bonjour.
Trois fois la fin du monde, c'est le titre de vos derniers romans. De votre dernier roman, il est publié aux éditions Notabilia. Je viens d'en lire la première page. Ce qu'on entend dans ce roman, c'est une voix qui parle à la première personne. Et souvent, vos récits sont à la première personne. Comment ça vient ça ? Pourquoi ?
Tous mes récits ne sont pas à la première personne. La condition pavillonnaire est à la deuxième personne. Parce qu'en fait, j'avais essayé d'écrire la condition pavillonnaire en jeu. Enfin, je voulais pas l'écrire en jeu, je voulais pas l'écrire en elle. Donc, il me restait que le tu. Des fois, on écrit en jeu, en il, elle, parce que ça fonctionne, c'est tout. On sait pas trop pourquoi. Et après, en général, on se rend compte que ça fonctionne très bien, notamment là, en parlant de la condition pavillonnaire, qui était mon troisième roman. Là, le début du livre, trois fois la fin du monde, c'est pour être embarqué avec lui. C'est quand même très dramatique et très romanesque, quand même, pour le dire, que on arrive, quelqu'un a perdu son frère, il se retrouve jeté en prison. Comme je voulais amener le lecteur assez loin, mentalement, psychiquement, dans une aventure de grande solitude, donc dans une Robinsonade, il fallait que le début du livre permette un grand attachement au personnage.
Il fallait capter l'attention immédiatement.
Oui, non, c'est pas juste capter l'attention, c'est
plonger.
Être avec lui. Voilà, c'est être avec lui. Donc dans ces cas-là, évidemment, en jeu, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc il arrive, il est jeté en prison, et là il subit un enfer. Et donc on s'attache à lui, on a pitié de lui assez rapidement. Il est un peu comme l'incarnation du lecteur qui lui-même se retrouverait jeté en prison sans avoir les codes de ce monde-là.
Pourquoi la prison ? Comment elle est apparue ?
En fait, mon livre est une revisitation du mythe de Robinson. Mais je voulais que, moi, en voulant retravailler ce thème, je voulais que la personne choisisse de rester toute seule dans, non pas une île déserte, mais une cabane au fond des bois. Voilà. Dans une zone abandonnée, je voulais que ce soit plutôt choisi par rapport au Robinson de Tournier ou de Faux, je veux dire.
Ou c'est un accident.
Et donc il passe le premier tiers du livre à vouloir sortir, à vouloir trouver les autres. Il est obligé de rester, donc il se fait une raison. Moi, donc, je voulais qu'il choisisse quelque part de rester tout seul. Et pour cela, du coup, à rebours, non seulement à rebours, il fallait aussi qu'il y ait une espèce de fin du monde, donc que tout le monde parte et qu'il y ait des endroits où il pouvait être tout seul. Et encore avant ça, il fallait qu'il ait envie de rester tout seul. Et pour avoir envie de rester tout seul, passer quelques années en prison, ça, c'est bien, parce que ça rend très très misanthrope. Mis à part ça, sur ce niveau, cette cohérence psychologique, la prison m'a toujours paru un énorme scandale politique, déjà, parce qu'il se passe des abominations vraiment indicibles dans une indifférence totale. Et à la fois, évidemment, c'est philosophiquement intéressant, la prison, parce que c'est à la fois une expérience de grand isolement et de grande promiscuité. Et comme moi, je travaille souvent dans mes livres cette question de la solitude et de la société, du trop de solitude ou de trop de société. La prison, en fait, était quelque chose de très, très prégnant. Non, mais c'est vraiment qu'un passage, c'est les 50 premières pages du livre. Et après, on passe à deux autres tableaux. Donc c'est trois tableaux en quelque sorte, et on passe au tableau très rapide d'ailleurs de l'apocalypse, et après à la Robinsonade, où là on comprend pourquoi ce jeune homme dit, puisque c'est comme ça, non, moi je vais rester tout seul. Je vais me débrouiller tout seul, les autres c'est des assassins, ou c'est des magouilleurs, ou c'est des gens violents. Et donc il a plus envie de voir les autres. Il a envie d'être libre, parce qu'il sort de prison, et il a envie d'être tout seul, tranquille. Parce qu'on n'est pas du tout seul en prison, on est tout le temps confronté justement à une relation qui est sordide, qui est violente, qui est entaché de toutes les vices de l'humanité. Voilà.
Votre roman est, vous le disiez, découpé en trois parties bien distinctes, et à chaque fois où en plus le jeu des pronoms évolue, c'est-à-dire la première partie est à la première personne et la troisième est à la...
La troisième non, est à la,
la première
fois...
Est à la première est à la première personne, et la troisième circule entre les deux.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Est-ce que ce serait trois manières pour vous, c'était trois manières pour vous de décrire justement la solitude? Ou trois manières de solitude?
C'est trois tableaux de solitude, oui, en quelque sorte. Le premier, c'est plutôt l'enfer de Dante. On tombe dans un cercle de violence, d'enfermement, de magouille, de, à la fois la violence des matons, la violence de l'enfermement, la violence des co-détenus. C'est vraiment, je l'ai écrit, il fallait que j'écrive cette partie sur la prison, mais comme une rampe de lancement. Mais c'est en lisant l'enfer de Dante que ça m'a vraiment donné le cadre à la fois de la densité d'écriture et l'espèce de cauchemar. C'est proche quand même, au début c'était même plus onirique que ça. On savait pas si c'était réel ou si c'était une espèce de cauchemar véritable qu'il lisait, qu'il vivait. Et ensuite, le tableau de l'apocalypse, qui est finalement très court, parce que j'étais assez gênée de voir faire une apocalypse. Moi, je suis pas très roman apocalyptique.
C'est difficile à écrire.
Oui, puis mon roman n'est pas un roman apocalyptique. C'est pas la route de McCarthy. Moi, en plus, tuer tout le monde. Enfin, là, il a fallu une catastrophe qui tue à peu près la moitié de l'Europe, en tout cas la moitié de la France. Mais moi, j'étais un peu embarrassée de faire ça. Je suis pas particulièrement sombre comme personne. Et j'étais un peu embarrassée d'avoir tous ces cadavres à gérer, tout ça. C'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai fait quelque chose qui est une espèce de chant prophétique. Pratiquement biblique, qui est au-delà des mots aussi. C'est très difficile, en fait, de faire un récit d'apocalypse. À un moment donné, une catastrophe arrive. Là, c'est vaguement de nature nucléaire. Mais quand la catastrophe arrive, véritablement, c'est quelque chose d'assez impensable. On l'a un peu vécu avec les attentats. C'est quelque chose qui, en fait, qui nous laisse dans la sidération. Et donc, à ce moment-là, les mots sont difficiles à mettre. Donc, j'ai fait quelque chose de très court. Et après, la troisième partie... Il y a une apocalypse à l'intérieur, mais c'est déjà une apocalypse pour moi que quelqu'un, qu'on imagine, je vais rester tout seul au fond des bois, je vais dans l'extrême solitude. Et là, il fallait alterner, c'était très difficile, c'est la partie qui m'a demandé le plus de mal à écrire. Il fallait alterner entre à la fois ce qui se passait dans sa tête et à la fois cette espèce de puissance de la nature qui s'écrit toute seule. Mais la nature ne s'écrivant pas toute seule, il fallait surplomber en quelque sorte. Mais il fallait aussi être avec lui. Donc j'ai légèrement alterné et ça fonctionnait comme ça. Mais alors là, j'ai mis un an à écrire ces 100 pages. J'ai déchiré les 100 premières pages, la première version en fait, qui était écrite à la troisième personne, pour trouver comment ça pouvait fonctionner. Parce que là, il est tout seul, donc c'est un roman avec un seul personnage, un peu comme dans À rebours de Huysmans. C'était très difficile quand on a un seul personnage enfermé dans la nature. Après, il y a des animaux, évidemment, qui arrivent, il y a des relations. Mais pour écrire ça, on est à la limite du langage. Lui, il parle dans sa tête, la nature ne parle pas. Donc comment on fait?
Ce serait quoi? Ce serait un univers pauvre au niveau du langage, vous diriez? D'avoir un seul personnage, enfin, en tout cas, limité?
C'est aride. Je ne dis pas que c'est pauvre du tout, parce qu'il est dans la nature, donc il y a une profusion de sensations, une profusion de signes, quelque chose qui intervient comme des signes. Mais... tout est dans le rythme, voilà. Tout est dans le rythme, mais c'est pas dans l'événement, c'est pas dans le dialogue, c'est pas dans l'interaction.
Votre personnage principal, il s'appelle Joseph Kamal. Mmh. On peut pas s'empêcher de penser à Joseph K, le personnage de Kafka.
Ah ben j'y avais pas pensé, t'es un subconscient kafkaïen.
Dans le procès, c'est la personne, oui, chez qui.
Oui, bien sûr, oui,
la police arrive.
Oui, j'étais très frappé.
Il y a un peu l'idée d'un personnage, en tout cas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive.
Absolument.
C'est important, ça, qu'ils ne comprennent pas l'environnement.
Dans la prison, oui, c'est très important, parce que comme ça, on est avec lui, c'est pas un voyou qu'on ne comprendrait pas. Et même après, ça devient un enfer, et il se retrouve obligé un petit peu de rester tout seul, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais il représente aussi quelque chose de très universel entre nous, c'est que ce livre permet de réaliser ce que permet la littérature, quoi. C'est une espèce de métaphore géante de la réalisation d'un fantasme qu'on a tous, c'est si je pouvais me débarrasser de tout le monde un jour, si je pouvais être tout seul. Entièrement tout seul. Mais alors, dans un endroit un petit peu paradisiaque, en tout cas un endroit où la nature, elle, n'est pas détruite, c'est pas détruit par des champs de cendres, c'est la nature est normale. Et puis, même les intermarchés sont encore pleins de nourriture pendant un certain temps, on peut aller dans les maisons vides. Donc, c'est la réalisation de ça que le personnage incarne. Et c'est un personnage qui est normal, c'est-à-dire c'est le Robinson d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas d'un milieu rural, qui n'est pas particulièrement dégourdi sur des choses de... C'est pas copain des bois comme on livre, hein. Il ne sait pas trop tout faire, tout ça. Mais c'est mentalement, il est tout seul et il réalise ce fantasme-là. Et avec la littérature, je peux vous faire vivre cette expérience-là.
Je vous propose qu'on écoute la voix de Michel Tournier sur Robinson Crusoe.
Le problème était le suivant. Faire un roman... qui soit à la fois mythologique et d'une actualité brûlante. Alors, je suis tombé sur Robinson Crusoe. Je l'ai lu et je me suis aperçu qu'il s'agissait d'un mythe. Pourquoi ? Parce que le brave Daniel Defoe, qui a publié ça, rappelons-le, en 1719, était à 100 000 lieues de se douter de la signification de ce qu'il écrivait. Il suffit d'en prendre quelques exemples. Robinson Crusoe, qu'est-ce que c'est ? C'est l'île déserte, d'accord. Mais pour Daniel Defoe, l'île déserte, c'était une chose horrible. C'était la chose asociale, la chose païenne et vraiment l'enfer. Mais pour nous, hommes du XXe siècle, c'est autre chose, c'est aussi le contraire, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire la vie simple, la plage, le bain de soleil, tout le côté club méditerranéen.
L'exil souhaité.
L'exil souhaité, les vacances. Comment voulez-vous que le brave Daniel Defoe ait la moindre idée des vacances, du nudisme? L'idée du nudisme était absolument impensable pour Daniel Defoe. C'était un puritain anglais du début du XVIIIe siècle. Mais même le bricolage, Robinson est le patron des bricoleurs. Il fait tout lui-même avec ses mains, n'est-ce pas? Pour Daniel Defoe, c'était horrible d'être obligé de faire tout soi-même. C'était à une époque où on était servi. Un homme qui faisait les choses lui-même était un misérable. Eh bien, être obligé de tout faire soi-même, c'est un des rêves de l'homme d'aujourd'hui.
C'est la voix de Michel Tournier, une archive de Radioscopie en dialogue avec Jacques Chancel. Et il parle de Robinson comme mythe. Et ce qu'il y a d'assez amusant dans cette archive-là, c'est qu'il parle de l'évolution du mythe. C'est-à-dire un mythe, ça ne s'adresse pas toujours de la même façon. Et ça évolue, et c'est pour ça qu'il a réécrit Robinson Crusoe. Est-ce que vous, Sophie Divry, dans Trois fois la fin du monde, avec l'idée d'écrire une Robinsonade, donc une histoire de solitude, vous avez pensé à ça aussi, à cette évolution du mythe?
Oui, évidemment. Enfin, dans le sens, c'était mon aspiration. C'est très intéressant l'évolution parce qu'en effet, le livre de Defoe est relativement pauvre aujourd'hui pour nous. C'est en façon Crusoe et une métaphore du capitalisme qui arrive à coloniser une île avec sans aucun scrupule. Et le dernier endroit qu'il colonise, la dernière conquête, c'est Vendredi, qu'il a servi tout de suite. Daniel Defoe, Michel Tournier a complètement inversé ça, où Esperanza, l'île, est un endroit de liberté et d'épanouissement contre justement le système capitaliste ou contre, en général, l'enfer, c'est les autres de Sartre. Là. Et à la fin, ça finit dans une espèce de paradis d'éternité. Robinson est dans l'éternité chez Defoe. Il y a vraiment des pages extraordinaires à la fin où il dit « Si j'étais resté sur Terre avec vous, avec ces gens du bateau qui cherchent de l'or, qui sont vils, je serais un quinquagénaire. » Or, ça fait 30 ans qu'il est là, il n'a plus d'âge, il est dans l'éternité. Et c'est écrit dans les années 70-80, j'ai oublié tout à coup.
Quelque chose comme ça, oui.
Voilà, Tournier. Là, j'ai lu tous les Robinson, évidemment. Mais c'est à une époque où la nature paraît comme une valeur qui peut sauver. Voilà, c'est le côté, le retour à la nature, pour dire rapidement. Moi, mon Robinson s'inscrit évidemment à la fois dans cette mythologie et dans cette actualité, dans le sens où on est dans une période d'apocalypse. Donc, déjà, il y a une espèce de moment, la catastrophe est revenu. Et puis, la violence, la catastrophe et la violence. Et notamment, j'en traite aussi la violence d'État, un peu, qu'on peut voir dans la prison, mais qui est là autour de nous maintenant. Mais le fantasme de retour à la nature et d'autonomie et de solitude absolue contre les autres est quelque chose qui travaille beaucoup de contemporains par le milieu écologique, le milieu survivaliste, des choses comme ça, et qui nous traverse tous. Côté, désagrégeons la société et débrouillons-nous tout seuls. Voilà. Mais sauf que moi, je ne pense pas que la nature sauve. La nature enchante, la nature extraordinaire. Moi-même, j'adore être dans la nature, mais tout ce que je voulais, en quelque sorte, dans l'intention morale pratiquement de mon livre, c'était de dire que oui, c'est impossible de vivre avec les autres, mais c'est impossible de vivre tout seul. C'est ça le paradoxe que travaille mon livre. Et tout ce que va vivre Joseph Kamal dans la troisième partie du livre, l'essentiel du livre, c'est à la fois cette fascination de la nature, mais la nature qu'à la fois comme une protection et une menace. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'enchanteur et d'une grande altérité, qui finit par se retourner contre lui. Parce qu'on ne peut pas être un être humain tout seul. C'est ça que je voulais un peu démontrer, mais vraiment, évidemment, sans pédagogisme. Mais c'est le contraire de Tournier, finalement, où j'espère qu'à la fin, on comprend qu'il, malgré ce qu'il a vécu, il a besoin d'un nous. Il a besoin de retrouver une humanité, malgré le fait qu'il a cru pouvoir être dans une espèce de communion extraordinaire avec la nature, ou de se suffire d'un chat et d'un mouton avec lequel il va tisser des relations. Parce que l'homme, où qu'il soit, tisse des relations. Mais c'est le contraire de Tournier, mais c'est aussi d'une actualité où moi, mon message serait pour dire, de toute façon, on ne s'en sortira pas tout seul. Voilà. On ne s'en sortira pas, et donc c'est ce que permet le roman, c'est de mettre en image, en espèce de super image, à la fois ce fantasme que nous avons et cette exploration de la conscience, voilà. Cette détestation des autres, cette volonté d'être tout seul. Mais si on le laisse, on fait une métaphore, on fait un roman avec, on voit le personnage vivre à l'intérieur. C'est un peu difficile quand on écrit parce que on est dans cette folie-là. Mais du coup, on va jusqu'au bout et moi, je vois que ce n'est pas possible. Et c'est un peu ce qu'avait fait aussi un bouquin extraordinaire, qui est pour moi le troisième Robinson, qui est Le Mur Invisible de Marlène Haushofer.
Une auteure allemande.
Voilà, une auteure allemande. Donc, a été tiré un très très beau film aussi qui s'appelle Le Mur Invisible, qui parle de cet échec en fait de la nature. Voilà. Mais en plus, Le Mur Invisible, qui s'appelle Die Wand en allemand, et aussi un rapport avec le mur de Berlin, l'enfermement, autre chose. Mais il y a un retournement, et la vision un peu comme Méditerranée, enfin la vision très positive, mais même il en a fait
évidemment
beaucoup plus que ça, hein, chez Tournier, c'est un bouquin extraordinaire. Je trouve qu'en 2018, oui, c'est plus possible.
Vous direz que la nature a changé de statut dans les consciences des gens?
Je ne sais pas si la nature a changé de statut, mais la collectivité a, dans la mesure où la catastrophe écologique, je crois qu'on a tous compris, la catastrophe écologique ne mettait pas en danger la nature. Au bout d'un moment, enfin, la nature, elle s'en sortira très bien, la Terre, elle s'en sortira très bien, même s'il n'y a plus que des acariens dessus, elle s'en sortira toujours. La question, c'est...
Ça sera toujours dans la nature, en tout cas.
C'est est-ce que nous, on s'en sortira? Nous, et puis notre civilisation relativement humaniste, voilà.
Vous le disiez tout à l'heure, votre personnage principal, Joseph Kamal, il n'a pas du tout les codes de la nature, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un citadin, en tout cas qui a les mœurs.
Oui, parce que souvent quand on fait des robinsonnades, comme par hasard, les gens ils savent faire du feu, ils savent tout faire, etc. Bon. Non, lui, moi j'ai voulu prendre quelqu'un de normal, donc il galère pour attraper des lapins, il ne sait pas si les truites, si on les met ensemble, elles vont se reproduire.
Il doit réapprendre l'agriculture, et ça c'est assez émouvant d'avoir quelqu'un qui est en fait citadin, et qui doit réapprendre le cycle des saisons, les semis, les plantations, les clôtures. Il y a presque une ambition aussi pédagogique dans le livre, en tout cas. Enfin, il y a quelque chose d'une dimension pédagogique de réapprendre à travailler la terre et le travail à la ferme.
Oui, même si j'ai un peu gommé le côté copain des bois, justement, par rapport à d'autres Robinsonades, mais il a vraiment, en effet, au tout début, il y a à la fois une extraordinaire liberté, surtout quand il sort de prison, où il prend une pince Monseigneur, et il coupe toutes les clôtures. Voilà. Et après, au fur et à mesure, il s'aperçoit que s'il a un mouton, s'il a un minimum de vie autour de lui à régimenter, il va réapprendre ce que c'est que vivre en petite ferme. Voilà. Et ça l'éduque, comme ça. Jusqu'à un moment donné où cette harmonie, comme ça, qu'il pense avoir, finit par s'effriter, ou en tout cas être mise en doute. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est la langue de ce personnage-là. Puisque donc, il n'a pas du tout les codes, il n'a pas les termes, entre guillemets, appropriés pour décrire les situations. Est-ce que c'était aussi un plaisir pour vous? Enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose de la dimension du jeu, d'avoir quelqu'un qui n'a pas la langue qui convient, d'une certaine manière, pour décrire les situations
c'était
naturelles.
C'était une grande difficulté du livre, parce que si je suis cohérente, purement cohérente, le personnage n'a pas les codes. Il ne sait même pas la différence entre le foin et la paille. Enfin, toutes les choses que vous voyez très bien, hein, ce que je veux dire. Mais du coup, il faut quand même que... je ne veux pas moi appauvrir non plus en tant que romancière, ça ne m'intéresse pas non plus d'appauvrir énormément mon roman en termes de langage pour faire un roman purement réaliste. Je ne suis pas dans une expérience de laboratoire. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû alterner avec une voix supérieure qui dit la nature. Voilà. Mais de toute façon, mettre le mot juste sur le détail juste de manière dense, c'est ça le travail d'écrivain. J'ai fait ça avec mon deuxième livre, Le journal d'un recommencement, où je dis qu'est-ce que c'est que de pratiquer la messe tous les dimanches. Et je voulais surtout pas mettre des mots style la grâce, la foi, la jurée. Enfin, ça veut rien dire. Mais par contre, on s'assoit, on se lève, on chante, on a froid, on a faim, enfin, on entend quelqu'un qui chante mal. Et des choses très précises. Et ça m'a été très utile après pour tout mon travail d'écrivain. Plutôt que oui, comme dit Nathalie Sarotte, comme elle a fait dans Tropisme. Elle dit, si on met timide, ben, tout le monde pense savoir ce que ça veut dire, timide. Mais si on dit, voilà, on rougit un peu, on se recule, on a un nœud dans le ventre, elle est très précise, très très précisément comme ça, dans quelque chose à la fois de très doux et de très précis. Moi, je travaille toujours plus facilement, enfin pas plus facilement, mais je cherche toujours la condensation, quitte à ce qu'après la phrase s'expande comme un gaz, quand vous la lisez, et qu'elle répond autour d'elle une puissance plus forte, plutôt que dans la dilution, voilà.
Ce serait se défaire aussi d'une certaine manière d'un langage théorique ou de la théorie.
Absolument. En plus, c'est se méfier. Il faut vraiment qu'on se méfie de toute érudition, de toute intelligence. Il faut être dans la description et dans la touche. Voilà. En tout cas, surtout quand il y a comme ça un gros mythe bien costaud, il ne faut pas en rajouter, quoi.
La nuit tombe. Le ciel s'est obscurci, les feuilles des branches se mêlent et le sol s'engloutit. Les rouges-gorges se plaignent du retour de la chauve-souris. Alors, la laure glisse en chantant plus fort. Les grenouilles sortent de terre, leur peau brille. Un tronc ressort du cours, une belette vient le franchir, boit l'eau. La nuit prend le domaine, l'homme dort. Le mouton est assis dans la paille. Le vent s'engouffre sur le causse, des odeurs charriées se répandent dans l'obscurité. Le vent s'engouffre, les souris baissent les oreilles. Les renards remontent des traces, le grand-duc, si c'en est un, ouvre la chasse. Il n'y aura plus jamais de phare, plus jamais de cris, de moteurs s'opposant à la nuit. Le noir s'étale. La terre respire, les bêtes chassent. Des griffes fouillent la terre et des becs grattent. Sous la masse, ça martèle et creuse. Les pas du sanglier font craquer les branches. La genette laisse derrière elle des excréments noirs. Les arbres sont heureux de s'enrouler autour des oiseaux. Quelque chose s'arrête. La lune a accompli l'arc de sa lumière. Le noir remonte jusqu'à la cime des pins. Le vent s'apaise. L'humus est dévoré par des millions de bouches microscopiques. Des souffles, seulement. Ce qui se sent, ce qui se touche, rien ne se voit. Les petits espaces deviennent immenses. Et quand tout est froid, entièrement calme, les derniers pas du blaireau vers son terrier. Alors, une clarté qui blesse le noir, les cimes ressuscitées des grands pins là-haut, la pointe du soleil, une gelée qui blanchit l'herbe. Le rouge-gorge est le premier levé. Il vient frapper à ta fenêtre.
Sophie Divry, on vient d'entendre Oriane Delacroix qui lit un extrait de votre roman « Trois fois la fin du monde » où on entend justement cette vue de haut et cette description de la nature une fois que les humains ont disparu. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se jouait de l'ordre d'un roman écologique dans votre écriture, au sens où on n'arrête pas de parler de l'influence néfaste de l'homme sur la planète, et que là, c'était un moyen d'imaginer pour vous qu'est-ce qui se passe si l'homme fout la paix à la nature, en gros. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez imaginé ou écrit ?
Non, pas spécifiquement. Dans le sens, oui, c'est sans doute un roman écologique. C'est-à-dire, moi, j'ai été journaliste écologique au journal La Décroissance. Je pense que, en plus, je suis comme beaucoup de citadines, tout le temps en train de vouloir sortir dans la nature. Mais je suis un peu scindée comme ça, comme beaucoup de nos contemporains, entre une vie citadine et un appel vers la nature. Le livre qui m'a beaucoup frappé sur le rapport à la nature, plus que celui de Tournier, c'est le livre La Petite Lumière d'Antonio Moresco, qui est un auteur italien. Qui est un livre extraordinairement beau et poétique, et qui montre très bien l'altérité profonde entre la nature et l'homme. Où c'est un homme qui est paumé dans une campagne italienne, un peu rocailleuse, et il observe la nature et les animaux, et ça lui semble profondément monstrueux, au fond. Voilà. Et puis il y a un autre livre aussi qui raconte ça, cette espèce de... comme la nature est plus forte, la nature est... Et là, c'est dans une ferme à ce moment-là que ça se passe. Ça s'appelle Retour au fumier, un très beau titre, de Raymond Federman, un auteur par ailleurs que j'aime beaucoup, qui est très fantaisiste. Il raconte comment il a été paysan pendant la guerre à l'âge de 12 ans et que les vaches, qu'il fallait tous les jours, les vaches qui faisaient leur fumier, qu'il fallait sortir la merde des vaches tous les jours. Et on le sent, une rare expérience de quelqu'un qui a été paysan qui raconte à quel point la nature nous écrase. Et contrairement à nous, en tant que citadins, on voit la nature assez extraordinaire, on se promène et tout ça, la nature a une force qui n'a aucune valeur, au fond. Dans le sens, nous accordons une valeur à la nature.
Valeur positive ou négative.
Dans le sens, il n'y a pas de bien, de mal dans la nature.
Elle fait.
Elle fonctionne. Et en fait, elle est là, elle vit. Alors, à un moment donné, il y a une scène dans mon livre où il y a un animal auquel Joseph est attaché qui va se faire manger par un autre animal. Et tout le monde s'en fiche. Il est tout seul. Voilà, lui, en tant qu'être humain, ça le choque profondément.
Il voit un crime.
Il voit un crime à nouveau, voilà. Il voit une violence à nouveau. Alors que pour l'animal qui va se nourrir de ce petit chat, il n'y a aucun problème. Au contraire, il va... Et ça, c'est insupportable au bout d'un moment. Parce que justement, le fait que c'est l'homme qui apporte du bien, du mal, de la valeur, du discours... Du mythe sur quelque chose, au fond, qui n'en a aucun. Voilà. Et c'est ça dont on va se rendre compte, en fait, qu'on s'affronte à quelque chose que nous, on a beau charger de mythologie, de signes, de sens. La nature est là pour vivre et elle continuera, même si on crame complètement l'effet de serre, il y aura toujours quelque chose. Ça n'a pas... et ça, c'est un mur, justement. Et dans les livres de Moresco ou de Marlène Haushofer, il y a ça. Voilà. Et donc, après, il y a cette question de la violence. C'est-à-dire qu'il y a une violence dans la nature, mais ce n'est pas une violence perverse ou une violence sophistiquée comme celle qu'on peut voir en prison. Voilà. Et c'est sûr que du coup, au début, quand il arrive, il y a l'impression de grand ralentissement. Et ça, on le sent dans le livre, quand il y a le troisième tableau qui commence, c'est à chaque fois comme si le livre se renouvelait en tant que tel, ou si l'espèce de rêve dans lequel il est aussi, de cauchemar ou de rêve, se renouvelle, l'impression que tout à coup, il y a un amortissement. Et que chaque page, il se passe beaucoup de semaines. Voilà. Et là, donc, sa haine dont il est chargé se dilue. Parce qu'il n'y a plus d'être humain sur lequel entretenir sa haine. Une fois qu'il a déchiré les photos de tout le monde, parce qu'il s'est énervé... Hein, il n'y a plus rien. Mais par contre, il y a cette espèce de perte de sens, là, et de perte d'humanisation, qui fait que ce n'est plus, au bout d'un moment, ce n'est plus possible. En tout cas, moi, c'est ma version. Dans le sens, au fond, c'est comme les gens qui partent là, tout seuls, se mettent dans un coin extraordinaire parce qu'ils ne veulent plus s'occuper de politique, ils ne veulent plus s'occuper de la société. Et puis un jour, il y a un accident nucléaire et ils sont à côté. Voilà. Parce qu'en fait, on est toujours rattrapés. Voilà. On est toujours rattrapés. Et donc, pour moi, la nature en tant que telle, la nature, elle s'en sortira toujours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment on peut vivre ensemble?
Je vous dirais que la littérature, c'est un regard humain posé sur la nature, forcément, notamment dans le travail de la description.
Non, alors moi, je ne suis pas du tout, par exemple, je ne suis pas du tout de nature writing, là, les trucs américains. Là, ça m'a toujours saoulé, les histoires où on va décrire le petit furet qui monte, etc., le nombre des griffes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, et je pense qu'une des missions de la littérature, parmi les 100 bras de Shiva qu'elle a, c'est l'exploration de la conscience humaine. Voilà. Et donc là, la nature me sert comme pour montrer quelque chose, voilà. J'allais dire moralement, presque politiquement. Est-ce que on a toujours besoin, on peut pas vivre ensemble, mais on peut pas vivre tout seul non plus. Donc il faut bien qu'on se débrouille quand même à un moment donné. Il faut bien qu'on y aille, quoi. Voilà. Mais en tant que tel, je voulais pas décrire la nature pendant des pages et des pages. D'ailleurs, c'est pas un roman très long finalement. Je voulais juste qu'il y ait quelque chose de la force. Quelque chose à la fois l'amortissement et quelque chose de la force. Cette force qui au début est fascinante. Et à la fois et finit par être une espèce de statue du commandeur qui écrase en fait le petit être humain tout seul. Il aurait fallu qu'il ait quelqu'un d'autre avec lui un vendredi ou une femme pour contrer par un dialogue, par une mythologie, par un récit quelque chose, mais tout seul il ne peut pas en fait. Il peut pas, il n'y a plus les conditions de l'humanité.
Merci. Sophie Divry.
Ah ben merci à vous.
Trois fois la fin du monde, c'est le titre de votre roman. Il est publié aux éditions Notabilia et il est sorti hier, aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Merci. Merci à Oriane Delacroix, Camille André, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Anne Toscane-Viudès et Anne-Olivia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Alexandre Fougeron était à la réalisation et aujourd'hui à la technique, c'était Jean-Guilain Meige. Pour réécouter la grande table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir à 18h15 dans Du Grain à Moudre, Antoine Genton posera la question à ses invités: vers où regarde l'Afrique ? Il est 13h49 sur France Culture. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'enquête historique de Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre.